direz dans le fond si vous entendez. Si vous n'entendez pas suffisamment, vous levez la main, je comprendrai qu'il faut donner un peu plus de voix. Parce qu'on est dans une crise économique. C'est tout à fait ce qu'il faut pour l'histoire de la pensée politique. Je vous avais, la dernière fois, j'avais repris un peu John Locke pour essayer de comprendre la naissance de la philosophie libérale. Il faut bien comprendre le libéralisme économique différent de la philosophie libérale. Ce n'est pas la même chose. Mais cependant, il y a des liens. Alors, nous avions essayé de comprendre comment la critique de la connaissance chez John Locke aboutissait à cette position politique. Je crois que c'est ça qui est important à saisir. Il y a chez John Locke tout un aspect critique de la pensée qui est intéressant, un retour à Aristote, mais évidemment d'une façon assez particulière. Mais un retour à Aristote, c'est-à-dire un désir de réalisme. C'est quand même toujours ça qu'il faut regarder dans ce retour à Aristote. Aristote reste, si vous voulez, face à Platon, celui qui veut revenir aux réalités humaines. Et ça, c'est vrai. Regardez Platon, on ne peut pas dire que c'est le point de vue de la réalité humaine qui commande sa philosophie. Ce sont les idées. C'est une philosophie de l'âme, de la forme, des idées. Et je crois que, justement, l'eidos, l'idée, idéalise la forme. Et en idéalisant la forme, vous faites de la forme l'absolu. Et la matière est donc rejetée dans les abîmes du non-être. Et tout est à partir de là. Dans John Locke, le désir de revenir à un aspect réaliste par le point de vue de la connaissance. Ce réalisme n'aboutit pas puisque ce réalisme va être arrêté, en ce sens qu'il n'arrive pas à découvrir la finalité. Je crois que le réalisme pratique, ce n'est pas constater des faits, on peut idéaliser des faits. Le réalisme pratique, c'est de redécouvrir la finalité de l'homme, redécouvrir la finalité de l'esprit. Or, c'est assez net quand on regarde John Locke, c'est que l'absolu, donc le réalisme pour lui, reste à un niveau de la relation. L'association de nos expériences, de nos perceptions, qui permet de comprendre par là la possibilité d'une loi. Et quand on regarde une philosophie, il faut toujours essayer de comprendre où se trouve la découverte d'un certain absolu. Pour Aristote, l'absolu, il est découvert d'abord au niveau de l'universel, puis au niveau des principes. Et l'absolu dans l'ordre pratique, c'est la finalité. C'est que l'homme est fait pour le bonheur. Et c'est cette découverte de la finalité qui donne un sens à la vie humaine. Ce n'est pas l'universel qui donne un sens à ma vie humaine. Mais l'universel fonde la science. Et donc fonde la certitude. Et donc fonde une possibilité d'une découverte de vérité. Donc, pour la philosophie aristotélicienne, il y a un absolu du côté spéculatif, il y a un absolu du côté pratique. Et l'absolu spéculatif ne rejoint pas ou n'idéalise pas l'absolu pratique. Il n'y a pas de dualisme, hein. C'est pas un dualisme. Ce qu'on pourrait dire, le dualisme de la matière de la forme, vous le retrouvez de cette manière-là. Connaissance spéculative, l'universel, seule la forme peut être universelle. C'est vrai. La matière ne peut pas être saisie comme universelle, puisque la matière particularise et individualise. Et alors donc, la forme est prise comme universelle, et l'autre absolu sera la finalité, par le point de vue du bien. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un dualisme, parce que entre connaissance spéculative et connaissance pratique, il y a une unité, selon deux modalités différentes. Il y a une vérité pratique, une vérité spéculative, il y a une recherche spéculative, une recherche pratique, une recherche spéculative, une recherche pratique, et tout s'achève dans le point de vue de la finalité. Il y a bien une diversité, mais il y a un dépassement. Du reste, faisons attention, chez Platon aussi, il y a un désir de dépassement, et qui, je crois, n'est pas fait d'une façon absolue, parce que l'un et le bien, c'est dans le prolongement de la forme, en laissant tomber la matière. Chez John Locke, dans ce retour de réalisme, ça il faut reconnaître, hein, il y a quelque chose de sympathique chez lui. C'est retour à quelque chose de réaliste. L'expérience. Les idées ne sont pas innées. Donc, ce n'est pas un idéologue. Ça, je crois qu'on ne peut pas dire que John Locke est un idéologue. Il y a un retour à l'expérience. Mais l'expérience ne suffit pas. Il faut expliquer la loi. Et nous avons vu combien la loi, chez lui, joue un rôle très important. La loi, c'est une relation. La loi, ce n'est pas un principe. La loi demeure dans le comment. Et la loi n'explique pas le pourquoi. La loi n'est pas une finalité, c'est une mesure, c'est une règle de vie. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas l'absolu. Or, on voit très bien que dans la connaissance, John Locke ne saisit pas la démarche inductive d'Aristote. John Locke ne saisit même pas, je dirais, ce que c'est que l'universel. Au sens très fort, il reste dans l'ordre des relations, des associations que réalise la raison. La raison donne la possibilité dans la perception de toucher un certain absolu. Ce sera justement les associations, ce sera donc une relation vécue d'une manière, je dirais, dans l'exercice. Par le fait même, l'absolu ne sera plus saisi dans la réalité. Il sera saisi dans ce point de vue que dans l'homme, il y a la possibilité d'un choix libre. Et son absolu, c'est vraiment du côté de la liberté. Je crois que le seul absolu qui saisit, c'est la liberté, qui est un certain absolu, il faut bien le reconnaître, qui est l'analogue, alors c'est ça qui serait intéressant à pousser, qui est l'analogue de l'association au niveau volontaire. Vous voyez, il y a comme deux absolus, du côté de la connaissance, les relations, et du côté politique, la liberté. Et je crois que là, nous touchons à ces deux absolus. Et les associations, saisies du côté de la connaissance, font de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est une relation. C'est pas autre chose. C'est une relation, la liberté. C'est que vous mettez un bien relatif à un autre bien et vous êtes libre parce que vous pouvez en choisir d'autres. La liberté n'est pas dans la réalité. La liberté, elle est au-dedans de vous. On est plus ou moins libre. Si on avait un appareil qui pouvait jauger le degré de notre liberté, il y aurait la pesée régulière au noviciat pour voir si vous progressez dans la liberté. Et quand vous êtes absolument libre, vous êtes mûr pour les vœux. Tandis qu'au contraire, si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas mûr pour les vœux, vous êtes dans une ornière. C'est au fond ça, la liberté. On acquiert une liberté toujours plus grande. L'absolu de la liberté est subjectif. Le libre arbitre, qui n'est pas une nouvelle faculté, mais qui est le nœud de l'intelligence et de la volonté. La liberté naît du lien entre la volonté et l'intelligence. Donc la liberté, c'est quelque chose de relatif. Essentiellement, c'est une relation. C'est une relation dans l'ordre pour nous, dans l'ordre des moyens et de la finalité. Mais comme John Locke ne saisit pas ce que c'est que la finalité, c'est donc dans l'ordre du conditionnement humain. Et ce conditionnement humain va pouvoir s'appuyer sur le point de vue de la loi. La loi est une garantie de la liberté. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de garantie de la liberté. Vous voyez, c'est là où l'intelligence vient au service de la liberté. L'intelligence pratique, l'intelligence du législateur. Et la loi est garantie de la liberté. Vous voyez, comme chez Descartes, Dieu sera garant de la liberté. C'est très curieux de voir ça. Pour Descartes, c'est très net. Hein. C'est Dieu qui est garant de ma liberté. Tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu, je ne sais pas très bien si je suis libre. J'ai l'idée de la liberté. Mais l'exercice de la liberté, donc, du côté réel, je ne le sais pas. C'est grâce à Dieu que je peux avoir cet exercice libre. John Locke, qui est beaucoup plus laïque que Descartes, qui est, je dirais, je crois que c'est le premier grand laïque. John Locke, qui ne rejette pas Dieu, ce n'est pas un athée, mais c'est un laïque. C'est-à-dire celui qui veut montrer la souveraineté de l'homme. C'est ça le laïque. Où il y a quelque chose de juste, hein. Il faut montrer la souveraineté de l'homme. L'homme est maître et seigneur dans un certain domaine. Autrement, il ne serait pas créé à l'image de Dieu. Donc, il y a une souveraineté de l'homme. Cette souveraineté n'est pas absolue, mais elle existe. Eh bien, je crois que John Locke découvre cette souveraineté de l'homme, puisque le peuple est souverain, et c'est lui qui a la liberté. Il découvre cette souveraineté de l'homme garantie par la loi, non plus par Dieu. La loi devient garant de la liberté de l'homme. Et toute la grandeur de la loi, c'est de garantir la liberté de l'homme. La plus grande chose que l'homme libre peut faire, ce sont des lois. Pour se créer à lui-même une place fortifiée. C'est vraiment, je crois, ce que signifie la loi. La loi est gardienne de la liberté. S'il n'y a pas de loi, la liberté ne peut jamais s'exercer de façon parfaite. Parce que vous ne savez pas si votre voisin, qui est plus fort que vous, ne va pas vous violenter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les pirates. Ils viennent violenter la liberté. Et ils sont en dehors de la loi. Et alors à ce moment-là, on reprend le sens de la loi. Les gens les plus anarchistes disent quand même, on ne peut pas durer comme ça, il faut que la loi puisse s'appliquer. Parce que si la loi ne s'applique plus, il n'y a plus de liberté. Vous êtes dans un domaine de requins. Et chez les requins, c'est le plus fort qui reste le dernier. N'est-ce pas ? Ça, c'est bien évident, c'est le plus fort. C'est la force, c'est un équilibre de force. La loi est au-dessus pour essayer de maintenir ça. John Locke a très bien saisi ça. Et donc là, il y a une logique interne chez lui de comprendre que l'absolu, c'est la liberté. Comme on est nombreux, c'est la majorité. Le consensus de la majorité vient donner à la liberté son sceau d'absolu, son sceau d'autorité. Ce n'est pas la même chose, la liberté et l'autorité. Mais l'autorité naît de la liberté. Et l'autorité est pour la liberté. Mais on n'en sort pas. On reste au niveau de la liberté. Alors, évidemment, il y a cette chose tout à fait ahurissante que la majorité devient le sceau de l'autorité et permet à la liberté de demeurer. Et la loi est au service de la liberté pour permettre à la liberté de pouvoir s'exercer pleinement. Alors, cherchez bien où se trouve l'universel dans cette pensée. L'universel, je crois, est au niveau de la loi. Il y a quelque chose de grand, vous voyez, Héraclite avait dit la même chose. C'est les vieux Grecs qui avaient dit ça, le logos. Et il est premièrement vu en grosses lettres dans la loi. Parce que la loi est universelle. Et l'individu seul est libre. Et donc la loi est au service de l'individu dans sa liberté. Et la somme des libertés donne la majorité. Et permet donc à l'autorité de naître. Nous sommes donc en phase d'une exaltation de la liberté. L'homme se définit par la liberté. Le citoyen se définit par la liberté. Et l'éthos est pour maintenir cette liberté. Sans aucune vision de la finalité. Alors, il faudrait regarder successivement, je vous renvoie, je ne vais pas le faire ici, cette étude, parce que ça nous irait trop loin, je vous renvoie à cette histoire, je vous l'ai dit, elle serait très intéressante d'être reprise comme une topique philosophique, parce que Jean-Jacques Chevalier n'est pas assez philosophe, alors c'est un petit peu littéraire, s'il n'y a pas la philosophie, ça tombe un tout petit peu dans un point de vue littéraire. Alors, il montre après, en France, le libéralisme noble. Par rapport à John Locke, c'est un peu ennuyeux, ça prouve qu'il n'est pas noble. N'est-ce pas ? Le libéralisme noble. Alors, vous avez une série de noms, très intéressants du reste à regarder, qui seraient intéressants à étudier. Au plan spirituel, Fénelon. Le libéralisme noble de Fénelon, hein, au plan mystique. Les querelles de Fenon et Bossuet, on voit très très bien. Et c'est sûr qu'il y a un certain libéralisme spirituel du mystique. Le mystique plaide toujours la liberté. Fenon, je ne sais pas ce qu'il a compris à la mystique, mais c'est pas ça. N'allez pas lire du Fenon pour découvrir ce que c'est que la mystique. Tandis que Fenon, lui, a un sens du spirituel et de l'intériorité. Alors voyez, ne confondons pas intériorité et liberté, mais comprenons que de fait le mystique c'est celui qui plaide l'intériorité et donc nécessairement va être pour plaider la liberté des enfants de Dieu. Bon, la liberté des enfants de Dieu peut très bien aboutir à une théologie du libéralisme absolu. Même très intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de voir quand même cette position spirituelle d'un certain primat de la liberté. Mais vous comprenez que ce primat de la liberté, ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui ont cette liberté. Cette liberté, elle naît de l'amour. C'est toute la différence avec John Locke. La liberté de John Locke, elle ne naît pas de l'amour. Elle est dans l'homme qui acquiert cette liberté par son expérience. Et la loi est garante. Tandis que qu'est-ce qui garantit la liberté chez Fénelon ? C'est l'amour, comme chez tous les mystiques. Alors, à côté de Fénelon, Saint-Simon, Boulainvilliers, puis alors surtout Montesquieu. C'est évident, ce serait très intéressant d'étudier Montesquieu au point de vue histoire de la politique. Parce que c'est une reprise de toute une politique dans un sens d'un certain libéralisme, ça c'est sûr. Nous avons ensuite le point de vue de l'esprit des lois. Donc le développement de Montesquieu dans l'esprit des lois et le gouvernement modéré chez Montesquieu, donc toute l'étude de Montesquieu, autrement dit. Parallèlement à cela, il faudrait comprendre, et c'est pour lui le livre 5 de son étude, Réforme ou Révolution. Alors c'est les Lumières ou la politique de la raison. Vous avez Voltaire et Diderot. C'est tout à fait différent. C'est un autre climat. Et vous avez ensuite le problème de Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est vrai qu'au point de vue politique, c'est très intéressant de voir cela. Le libéralisme de Jean-Jacques, tout à fait différent du libéralisme de John Locke. Pour John Locke, la loi garantit la liberté. Pour Jean-Jacques Rousseau, la loi est quelque chose qui arrête la liberté. L'homme est né libre, mais l'État le contamine. Ça, c'est la grande vision extraordinaire du reste. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'état d'innocence qui demeure chez Jean-Jacques Rousseau. Il a demeuré dans cet état d'innocence. Et tout ce qui vient en dehors de cet état d'innocence est quelque chose qui est un petit peu terrible. Alors, toute la question du contrat social, nous n'entrons pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la grande opposition, et c'est ce que nous allons dire quelques mots là-dessus, la grande opposition de l'attitude du libéralisme, qui va naître à partir de l'hégélianisme. Je crois qu'avec la philosophie hégélienne, on est vraiment en face de quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne veux pas dire que Hegel est le premier, vous savez très bien, Fichte, Hegel, Schelling. Il y a une trinité là. Une trinité qu'on ne doit jamais séparer. Fichte, la naissance de la dialectique. Hegel, la formalisation de cette dialectique. Et Schelling, il a fait 7 philosophies. C'est terrible, Schelling. Parce qu'il a fait 7 philosophies. Alors, quand on met le petit doigt dans Schelling, on en a pour toute sa vie. C'est très curieux, Schelling. Et c'est une dépendance aussi, c'est un dépassement de Hegel, ça c'est vrai. Un essai de dépassement. Alors, là, vous êtes en présence de quelque chose de très nouveau. Et je crois qu'il faut comprendre la nouveauté de Fichte, Hegel, Schelling, ensemble, sans les séparer, mais en les distinguant. Je ne dis pas que Hegel, c'est le fils, n'est-ce pas, Fichte, hein, vous voyez, il y a une trinité, hein, c'est sûr. Il y a une source première qui est le moi de Fichte. Ça commence comme ça, c'est intéressant du reste. Ça commence par une espèce de réflexion sur soi. Fichte, Hegel, Schelling. Vous êtes en face d'une philosophie dialectique. Une philosophie dialectique qui ne distingue plus le point de vue pratique du point de vue spéculatif. Qui ne distingue plus le point de vue de l'être et du devenir, qui ne distingue plus la finalité de la substance, l'acte de la substance. Toutes les divisions antérieures, c'est ça, je crois, qu'il y a de très caractéristique dans la pensée dialectique. Toutes les distinctions antérieures, alors il faudrait les noter. Aristote, c'est un homme qui distingue. Mais qui distingue non pas pour diviser, qui distingue pour découvrir la finalité. Je ne dis pas qui distingue pour unir. Ça, c'est un peu maritain. Vous voyez ? Mais Aristote n'aurait jamais dit « je distingue pour unir ». Ça n'a pas de sens. On distingue pour aller plus loin dans l'ordre de la réalité. Et donc, pour la finalité. Si on distingue, c'est pour découvrir la finalité. Qu'est-ce qui unit ? C'est la finalité. Ce n'est pas distinguer pour unir. Qu'est-ce qui fait le principe d'unité ? Il faut quand même comprendre le réalisme. Je distingue dans l'ordre de la réalité pour découvrir la finalité. Et c'est la finalité qui suscite en moi le point de vue de l'amour. C'est rien, c'est volcanique. Là, ne vous inquiétez pas, il y a des problèmes internes qu'on ne peut pas découvrir. Alors, il faut comprendre que la dialectique, c'est le primat de la division. Ce n'est plus distingué, c'est divisé. Divisé pour faire la synthèse. Mais quand vous dites distinguer pour unir, c'est un petit peu hégélien. C'est des restes, des retombées hégéliennes. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, Maritain, distinguer pour unir. » C'est un thomisme à sauce hégélienne. N'est-ce pas ? Alors, un thomisme à sauce hégélienne, ce n'est plus du vrai thomisme. Ce n'est plus de l'Aristote. Au sens fort, c'est plus la finalité. L'un est une propriété. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Si vous cherchez la propriété, vous ne la découvrirez jamais. Ce n'est pas philosophique de rechercher une propriété. La propriété est une conséquence. Vous cherchez ce qui unit, ce qui est... Et donc c'est la finalité. C'est la finalité qui fait l'unité. Ça n'a l'air de rien, mais vous savez, c'est ces formules qu'on répète qui, au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, et on le répète indéfiniment. Alors, la dialectique, au contraire, c'est diviser pour la synthèse. Diviser pour dominer. Je crois que c'est ça l'hégélianisme. Diviser pour dominer. Alors, deux manières de dominer. Une manière de droite, une manière de gauche. Vous savez bien que l'hégélianisme est source d'une dialectique de droite et d'une dialectique de gauche. C'est ça ? Mais au sein de la dialectique, Hegel donne une double manière de dominer. Vous pouvez être un tyran de droite ou un tyran de gauche. Vous pouvez être un idéologue de droite ou un idéologue de gauche. Faites attention aux élections. Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas voter pour un tyran. Or, de fait, dans l'hégélianisme, vous voyez les deux. Et vous comprenez ça très bien. Ce matin, nous avions vu la distinction de la matière et de la forme. Hegel, c'est le dépassement de la distinction de la matière et de la forme. C'est le dépassement, c'est la synthèse des deux. C'est vrai. La première distinction, la première division, c'est la matière et la forme. C'est ça qui conditionne toute notre vie intellectuelle. Bien, vous retrouvez la distinction de la matière et de la forme dans Hegel. Être et non-être. Vu du côté de la vie de l'intelligence. Si vous voyez ça du côté de la vie de l'intelligence, vous comprenez très bien que affirmation et négation sont deux formes de ma vie intellectuelle. Et la négation, dans ce qu'elle a de plus fort, c'est de dire « ceci n'est pas ». Et l'affirmation, dans ce qu'elle a de plus fort, c'est « ceci est ». Donc, toute votre vie intellectuelle se divise par l'affirmation et la négation. D'un côté, c'est la matière, de l'autre côté, c'est la forme. Et vous allez voir dans l'idéologie hégélienne, la forme qui absorbe la matière et la matière qui absorbe la forme. Dialectique de droite, dialectique de gauche. Politique de la tyrannie de la droite, c'est la forme qui absorbe la matière. Tyrannie de la gauche, c'est la matière qui absorbe la forme. C'est aussi simple que cela au point de vue profond. C'est même très très curieux. Il y a un simplisme dans Hegel, il faut quand même le reconnaître. Il y a une grande naïveté. Hegel, lui aussi, retourne à Aristote. À la différence de Fichte. Il retourne Aristote, il le dit textuellement. Il dit textuellement que c'est Aristote qui nous apprend à penser, et que ce n'est pas Platon. Et donc il y a chez lui un désir de retrouver quelque chose qui est une synthèse philosophique. Et cette synthèse philosophique ne se fait plus par la découverte des principes, mais par la découverte d'une méthode dialectique. Et dans la méthode dialectique, la méthode et le contenu de la méthode, c'est-à-dire ce que vous saisissez et la manière dont vous le saisissez, s'identifie. Vous savez que pour saint Thomas, c'est l'erreur du platonisme. Saint Thomas dit ça textuellement. Platon n'a pas su distinguer la manière dont on saisissait la réalité et le contenu de cette réalité. On a projeté sur le réel notre manière de penser. Projeter sur le réel notre manière de penser, pour saint Thomas, c'est l'erreur fondamentale du platonisme. Eh bien, vous retrouvez exactement la même erreur dans la dialectique platonicienne. C'est que la méthode et ce que vous saisissez s'identifient. Alors, à ce moment-là, puisque la grande division et la division fondamentale de toute notre vie intellectuelle, c'est la division de la matière et de la forme, vous allez nécessairement retrouver ça. Une dialectique de l'idée, donc de la forme. Une dialectique de la matière. Alors, c'est au sein de l'hégélianisme. Mais évidemment, je crois que dans la perspective dialectique de Hegel, c'est quand même l'idée qui l'emporte sur la matière. Je ne sais pas ce que Hegel, du haut du ciel, a dû dire en face de la dialectique matérialiste. J'espère, du haut du ciel, n'est-ce pas ? Ce qu'il a dû dire de la dialectique matérialiste. Voir comment, de lui, de sa philosophie, s'engendrait la dialectique matérialiste. C'est très curieux. Remarquez qu'il y a un petit peu la même chose quand vous regardez d'Aristote, Occam. Comment de l'aristotélisme naît Occam, ça c'est quand même quelque chose de particulier. Aristote qui fait de la logique un organon, et l'organon qui remplace la métaphysique. Hegel qui met au-dessus de tout l'idée, donc la vie de l'esprit. Pensez à la manière dont Hegel s'oppose à Kant, en montrant la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est le progrès de l'esprit par la pensée dialectique. C'est la synthèse au-delà de la division. Et cette synthèse au-delà de la division qui aboutit justement à découvrir le devenir. Le devenir, c'est la synthèse de l'être et du non-être. Le devenir est avant l'être, puisque l'être et le non-être, ce sont les deux opposés. C'est très extraordinaire, ça. Et c'est très intéressant de comprendre comment le devenir l'emporte sur l'être. Et comment je ne peux plus voir l'être que dans le devenir, comme un élément du devenir. C'est très vrai au niveau vital, au niveau de la vie de l'esprit. Au niveau de la vie de l'esprit, c'est le devenir, le progrès. Vous voyez, quand vous parlez du progrès, qui est au-dessus de tout, quand vous parlez de l'évolution, qui est au-dessus de tout, tout ça provient de cette vision vitaliste de l'intelligence. L'intelligence est capable de faire la synthèse de l'affirmation et de la négation. Et donc, le devenir l'emporte sur l'être. Le devenir fait la synthèse de l'être et du non-être. Une fois que vous avez saisi ça, je crois que vous saisissez le point de départ de tout l'hégélianisme et vous saisissez par le fait même ce dynamisme prodigieux de la dialectique hégélienne. C'est un dynamisme prodigieux. Une fois que vous avez mis le petit doigt dedans, vous n'en sortez plus. On ne sort pas du devenir. Aristote l'a dit. Le devenir est infini. Il n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas mettre de limite dans le devenir. Vous mettez de limite dans l'être. Par le devenir, vous ne saisissez jamais Dieu, vous ne saisirez jamais Dieu. Donc, vous pouvez remonter à l'infini. Le devenir engendre le devenir, quand c'est un devenir de la pensée. Donc, il n'a pas de limite. Et ce qui explique comment la dialectique peut continuer indéfiniment. De Hegel à nos jours, la dialectique continue d'être. Et le devenir n'a pas de limite. Donc, on ne peut plus saisir un au-delà du devenir quand le devenir est compris comme la synthèse de l'être et du non-être. Il faut essayer de le vivre, cela. Parce que c'est assez extraordinaire de voir comment on peut montrer que l'intelligence, dans son devenir le plus fondamental, est au-delà de la distinction être et non-être. Vous voyez comme le principe de non-contradiction est absolument absorbé. C'est l'estomac du bois. Alors il arrive à dépasser la contradiction. La contradiction n'est plus quelque chose qui s'impose à la vie de l'intelligence, comme quelque chose d'objectif. Vous absorbez ça parce que, à la place de comprendre ce qui détermine l'affirmation et ce qui détermine la négation, vous le saisissez à partir de l'acte vital de l'intelligence. L'intelligence n'est plus regardée dans son objectivité, mais dans sa vitalité. Alors vous voyez le développement de l'intelligence qui se développe en thèse et antithèse, affirmation et négation. Les deux se tiennent, et les deux sont inséparables. Et ce qui est intéressant, c'est la synthèse. Oui, distinguer pour unir. Et vous voyez bien comment la synthèse a un primat sur l'opposition de l'affirmation et de la négation. Et ceci, c'est le développement même de l'esprit qui absorbe toujours l'être et le non-être. Donc la matière elle-même qui est non-être est absorbée dans le devenir. Et vous avez le développement de l'idée qui commande tout. Et l'homme est absorbé complètement dans cette perspective-là. Alors il y aurait la politique hegelienne à regarder. La politique hegelienne, vous savez bien, c'est l'exaltation de ce que représente la Prusse. C'est ça pour lui, c'est ça qui pour lui est important. La Prusse regarde le gouvernement de la Prusse, regarde le sommet de tout le gouvernement humain. C'est le maxime étalé. À l'intérieur même. Alors évidemment, c'est là où on voit une petite contradiction, parce que si on atteint un sommet, on devrait s'arrêter. Après la Prusse, ça devrait être le ciel. Ça devrait être le ciel. Oh, c'est pas ce qui se passe. C'est que ça continue la lutte. Donc il n'y a pas de maxime étalé. Du reste, au niveau proprement dialectique, on ne peut pas. Au niveau proprement dialectique, c'est le devenir. Il n'y a pas de contemplation. Il n'y a plus de contemplation, c'est impossible. Alors c'est intéressant de voir cela, et serait très intéressant de voir au point de vue politique, ce que représente l'État prussien dans la lumière hegelienne. Parce que alors vous auriez comme un absolu l'État prussien, comme ce qui domine tout. Vous voyez, l'idéalisation de la matière. Je crois que c'est ça Hegel. C'est l'idéalisation de la matière. C'est-à-dire l'idée qui absorbe la matière, le devenir qui absorbe l'être et le non-être. Et alors, au point de vue politique, cet absolu de l'État prussien. Cette dialectique de droite donne naissance à la dialectique de gauche. Vous avez le grand combat céleste qui est sur la terre. Hein. Vous avez la grande vision d'Hésiode dans la lutte dans l'Olympe. Et alors là, vous retombez sur la terre. Et c'est vrai, c'est ça qui commande notre vision d'aujourd'hui. Hein. Nous sommes en face d'un combat politique qui n'est plus du tout au niveau territorial, mais qui est au niveau des idées. La politique de droite et de gauche s'idéalise et l'homme est complètement absorbé. Vous n'avez plus une politique de l'homme. C'est pour ça que vous n'avez plus de politique. Vous n'avez plus qu'une dialectique. De droite ou de gauche. Ça n'a pas tellement d'importance. C'est relatif. Quoi. L'homme est absorbé des deux côtés. Alors évidemment, il y a deux manières d'être absorbé, par l'idée ou par la matière. Deux enterrements différents. Mais c'est les deux des deux côtés, c'est absorbé. L'homme est complètement absorbé. Il n'existe plus. Mourir pour l'idée, je veux bien. Mourir pour la matière, c'est le sépulcre. C'est évident, c'est le sépulcre le plus absolu. vous mourrez dans l'anonymat de la matière, ou vous mourrez dans l'universalisation de l'idée, ce qui est beaucoup plus glorieux. Mais c'est quand même pas la gloire personnelle. Des deux côtés, la personne humaine disparaît. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la perspective marxiste, parce que je crois que c'est quand même ça qui est important pour nous, c'est de comprendre ce que Engels dit. La dialectique hegélienne pénètre dans le marxisme. S'il n'y avait pas eu la dialectique hegélienne, que serait devenu Marx ? C'est intéressant comme poser la question. Oui. Que serait devenu Marx s'il n'y avait pas eu la dialectique hegélienne ? Je crois qu'on aurait un économiste regardant les injustices de l'homme et plaidant pour une justice plus parfaite, s'opposant violemment à la naissance de toutes ces injustices dans ce qu'il conçoit comme le capitalisme. Est-ce que sa vision du capitalisme est-elle hegélienne ? C'est ça qu'il faut se poser la question. Ou est-elle réaliste ? Parce que c'est très vrai, dès que vous êtes dans la dialectique hegélienne, vous idéalisez tout. Marx a-t-il idéalisé le capitalisme ? Le capitalisme est-il une vision hegélienne pour permettre l'antithèse ? Si le capitalisme n'existe pas, que devient le marxisme ? Il ne peut plus exister. Il existe en antithèse, tout le temps. Justice, vous voyez, l'injustice et la justice, on comprend très bien ça. Et ça, je crois que c'est la dialectique hegélienne qui a donné l'âme au marxisme. L'âme, c'est-à-dire sa forme, sa structure. L'âme, non pas substance, mais l'âme forme. Comprenez bien. Pas substance, pas du tout. C'est l'âme forme, c'est-à-dire à structurer la pensée Marx. Et Engels dit, c'est la dialectique Marx, la dialectique hegélienne qui a été renversée pour retomber sur ses pieds. Mais je ne peux pas partir de l'idée d'une dialectique idéaliste pour rejoindre la matière. J'idéalise la matière. Alors d'un côté, primat de la forme qui absorbe la matière, de l'autre côté, la matière idéalisée qui absorbe l'idée. Primat de la forme, primat de la matière. Je crois que Hegel comme Marx n'ont pas dépassé la division matière et forme. Enfin, là, il reste dans le même genre. Il reste dans le même genre, c'est-à-dire, d'un côté, c'est l'extrême droite, de l'autre côté, c'est l'extrême gauche. D'un côté, l'exaltation de l'idée, et au sommet, l'État prussien. L'État prussien n'est pas marxiste. Et de l'autre côté, l'État communiste, qui, lui, implique l'exaltation de ce que représente la matière. Mais l'exaltation de la matière ne peut se faire que par la dialectique. Et c'est pour ça que je me pose la question, je sais qu'elle se pose du reste, est-ce que cette vision du capitalisme n'est-elle pas une vision hegélienne, donc dialectique, pour permettre l'antithèse ? Et la synthèse sera le communisme. Ce sera l'État communiste analogue à l'État prussien. Les deux fruits opposés. Et pour comprendre, je crois, parfaitement ce que c'est que le communisme dans la vision dialectique de Marx, il faut peut-être regarder l'État prussien de Hegel. Puisque les deux se sont toujours l'un en face de l'autre, comme les deux positions opposées. Cette pensée dialectique de Marx, hein, qui est cette opposition ça veut dire que c'est suffisant, ça. C'est le coucou. C'est la pensée dialectique, ça.